Bonsoir et bienvenue à l'émission 40 jours et 40 nuits sur les ondes de Radio Victoria au 107.9 FM. 40 jours et 40 nuits, c'est notre façon à nous de prendre une petite pause pendant le confinement pour se changer les idées et partir à la rencontre de francophones en Colombie-Britannique à travers une série d'entrevues animées par moi-même, Julie Gagnon. Ce soir, je vous présente Gisèle Sanson, qui est une membre très importante de la communauté francophone en Colombie-Britannique, mais aussi à Victoria. Elle a fait beaucoup de travail à l'Association historique francophone de Victoria, et j'avais envie qu'on jase ensemble du devoir de mémoire, de ses nouveaux projets, de l'implication bénévole, mais aussi qu'on jase de personnages importants francophones à Victoria. Alors, on part à sa rencontre à l'instant. Bonsoir Gisèle, comment ça va?
Ça va bien?
Oui!
Hein? On joue avec les mots. Hein? Là, depuis quelque temps, on se confine puis on se déconfine là maintenant. Tous des mots nouveaux là, de distanciation et de masque et tout ça, là, on met ça dans nos vocabulaires.
Oui, puis on donne un nouveau sens à ces mots-là. Effectivement, oui. Ouais. C'est comme si un peu le temps nous permettait de redécouvrir des mots de vocabulaire qu'on n'aurait jamais cru qu'on allait utiliser aussi quotidiennement, en distanciation. Ouais. On n'a jamais dit ça tant que ça avant.
Non, c'est sûr. Puis je rends hommage là, en partant là, au trio politique et santé publique qui nous ont informés de tant de choses. Mm-hmm. Moi, j'ai appris pendant ces journées-là.
Oui.
Je trouvais qu'on avait beaucoup à apprendre. Même si dans ma vie passée, je suis de formation infirmière communautaire, me mettre à jour dans les recherches.
Oui.
Parce que c'est rare qu'on donne la place aux chercheurs.
Mm-hmm.
Et là, on a-tu été assez content de voir qu'on avait le trio du premier ministre avec cette chef sympathique, la docteure Bonnie Henry, puis notre ministre de la Santé, Dix, qu'on connaît, qu'on rencontre à l'occasion aussi, qui s'occupe des affaires francophones aussi. Alors, hommage à ce trio-là.
Absolument, absolument. Et c'est une très belle, un très bel hommage. Et je me demandais justement, qu'est-ce que vous faites ces temps-ci pour occuper ce confinement qui nous arrive comme ça, là?
Ouais, ben ce confinement, tu sais, c'est un mot auquel on savait pas qu'est-ce qu'on allait faire.
Oui, c'est ça.
Coudonc, je suis en prison, quoi. Tu sais, quel sentiment que j'ai, mais c'était un beau 9 semaines pour moi.
Mm-hmm.
Parce que dans ce confinement-là, c'est une réflexion. Et ben moi, je suis en route vers une prochaine étape qu'on appellerait octogénaire, qui devient de plus en plus la clientèle du virus. Bon, alors donc, non, j'ai pas peur de ça, mais je trouvais que ça a eu des bons côtés pour moi dans le sens que ça ralentit un peu le rythme de vie que j'avais comme bénévole. Ça m'a appris à prendre mon souffle et à voir comment mon corps, à l'étape où je suis dans ma vie, s'adaptait au quotidien. Mm-hmm. Parce que des fois, quand tu es dans le bénévolat puis que tu as des gros des projets puis que tu es appelé pour participer à telle ou telle chose, tu vas vite. Puis moi, je m'aperçois que ma partie de journée qui me convient bien, c'est le matin maintenant.
Mm-hmm.
Et je veux des fois le ralentir. Je vais rester puis je vais des fois jusqu'à midi.
Vous faites bien.
Et ça me faisait du bien de savoir que j'avais pas besoin de me dépêcher. Puis
il n'y a pas de malaise. T'sais, on se sent pas mal de rester en pyjama ces temps-ci. Il n'y a pas personne qui attend après nous. Alors on a toute la liberté de rester en pyjama.
Oui, puis il y avait une expression qui passait, là, j'entendais ça. Je suis en pyjama de jour et puis là, vers la fin de la journée, c'est mon pyjama de nuit. On changeait de pyjama, je sais pas quoi, là, mais il fallait faire un bon lavage pour en avoir toujours un disponible.
Oui.
Alors, je trouvais ça bien amusant quand même.
C'est
il y avait un bon côté avec une petite routine aussi qui s'est installée parce mm-hmm. que moi, je vis avec mon homme de vie. Hein? Mm-hmm. Et puis, le matin, on prenait le déjeuner lentement. Après ça, des fois, on faisait un petit jeu là, quelconque qu'on avait sur la table. Puis, mm-hmm. tu sais, on disait, ben là, on va écouter maintenant nos professionnels qui vont nous renseigner pour la ouais. journée. Puis on continuait, puis on parlait de comment on se sentait dans cette journée-là. Chose qu'on n'a pas le temps de faire quand on est accéléré à un rythme. Hein? Oui, donc dépêche. Mm-hmm. Alors, c'était changé. Ça a permis qu'on ait été ensemble. Il y a eu du beau temps. On a, mm-hmm. Nous, on a un balcon. On n'a pas un terrain, là, mais un balcon. Puis, on a passé du temps sur le balcon. Et ça mm-hmm. nous a unis aussi.
Oui, ouais. Oui, on se retrouve. Hein? On a souvent la vie qui va vite, comme vous dites. Et puis là, on est en couple. On est avec quelqu'un dans nos vies, mais on se voit quasiment pas, on n'a pas le temps d'avoir des vraies conversations là, qui prennent le temps puis de se demander comment on va aujourd'hui. Donc, c'est vrai ça apporte du beau dans nos relations. C'est vrai qu'on prend plus le temps de s'informer aussi de nos amis, des gens qui nous entourent, de savoir comment ils vont. Tu sais, c'est rare qu'on se posait ces questions-là peut-être avant, mais là, maintenant, c'est rendu essentiel. On se demande comment ça va puis on veut la vraie réponse.
Oui, bien, on a le temps de communiquer avec mm-hmm. les gens qu'on a laissés de côté.
Oui, c'est vrai.
Et c'est on était à une belle saison qui arrivait aussi. Mm-hmm. Donc, on avait un petit ménage de printemps qu'on va toujours à la vite quand on passe là.
C'est vrai, hein?
Parce qu'on l'a fait, à la semaine. Oui. Maintenant. Mm-hmm. OK, cette semaine, on fait la cuisine. La semaine prochaine, on fera d'autres choses. Alors, c'est un petit ménage de printemps. Agréable.
Oui, c'est vrai. Pas fatigué en plus parce qu'on n'a pas besoin de travailler la semaine hein, qui continue. On peut prendre le temps de le faire.
Exactement. C'est vrai. C'est vrai.
Et ça nous permet, oui.
Oui, correct. Continue.
Et ça nous permet aussi d'apprivoiser des nouveaux projets. Je sais qu'on a jasé un petit peu ensemble ce week-end à savoir qu'est-ce que vous faisiez ces temps-ci. Vous m'avez parlé d'un projet peut-être que vous allez faire d'écriture. Et ça, ça nous permet ça aussi, ce temps-là de repos, d'explorer des nouveaux projets d'écriture que normalement, on n'aurait pas eu le temps de faire.
Bien, c'est ça. C'est qu'on a le temps de fouiller dans des boîtes qui sont restées en arrière. Mm-hmm. Qu'il y a des piles de photos, hein, des photos de notre vie.
Oui.
Des photos que la parenté nous a envoyées. On a tout ça. Et puis, moi, je ne suis pas si ordonnée que ça. Là. Je ne fais pas... maladie d'ordonner mes photos quand ils me les envoient puis d'écrire la date et tout ça. Alors, j'ai retourné dans une pile de photos. Et puis, choisir lesquelles je vais garder puis lesquelles je vais laisser partir pour les vidanges, là, tu sais.
Oui, oui.
Fait que ça, c'est aussi jouer dans nos sentiments.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Ça nous... tu sais, quand dedans, il y a comme un petit rouleau qui roule là, en dedans de soi-même, là, au niveau des sentiments. Et puis, c'est à partir de ça que là, je me disais, mon Dieu, je m'aperçois que je suis la première de la génération de mes cousins-cousines. Je suis la première qui est née dans cette génération-là.
Mm-hmm, OK.
Fait que là... là, c'était l'aspect familial, tu sais, je me disais, waouh, les liens familiaux, je les ai pas avec toutes les cousins-cousines. Je suis rendue en Colombie-Britannique, mm-hmm. bon, alors là, je me disais, il va y avoir quelque chose que je devrais utiliser, là, et peut-être faire connaître des choses que les autres connaissent pas, parce que je mentionnais des fois... à des cousins, des choses. Eux autres, ils disaient, oh, je savais pas ça, tu sais.
Mm-hmm, oui.
Mais je me rappelle plus de lui. Ben, force la mémoire un peu. Mais là, je voyais que moi, j'avais pas le même âge que lui. Donc, moi, j'avais plus de mémoire pour ça.
De ce
alors,
temps-là.
Je suis celle qui a le plus de mémoire actuellement pour ma grand-mère maternelle.
Oui, oui.
Alors, c'est pour ça que là, je me dis, j'ai ramassé, je vais pouvoir penser à faire quelque chose. Mais ça nous fait tellement de choses à dire quand on parle de ce qu'on a ramassé comme souvenir dans nos têtes, puis forcer nos mémoires, puis essayer de raconter ça pour que les gens comprennent. la filiation. Tu m'avais lancé ce mot-là,
oui.
Filiation.
La filiation, oui. Avec cette grand-mère-là, qui a eu un impact oui. dans vos vies, mais aussi dans son époque.
Oui.
Et là,
oui.
vous cherchez à articuler ces souvenirs-là pour faire des liens entre vous et elle, mais aussi les cousins, la famille.
Ça.
C'est comme un lien indéniable, là.
Ben là, c'est notre chaîne. Hein?
Mm-hmm, c'est ça.
Ça là. Et la chaîne, ben là, moi, je connais la dernière de la génération qui est Chantal, puis moi, je suis la première, Gisèle. Mm-hmm. Alors, il y a bien des cousins-cousines entre ça. Et là, on est rendu, je pense, à la quatrième génération, tu sais. Moi, j'ai pas eu d'enfant. Et je compte combien de petits cousins, cousines qui arrivent là quand je te mise au courant. Puis je dis wow, la quatrième génération arrive là. Wow! Faut que je me dépêche à écrire quelque chose, je pense, pour dire écoute. Et surtout que la Colombie-Britannique, je me sens venue ici parce que justement mon homme partenaire, il était transféré d'Ottawa à ici.
Okay.
Donc, j'ai eu une réflexion à faire. Est-ce que je m'en vais en Colombie-Britannique? Et cette réflexion-là m'a fait dire oui, j'y vais.
Mm-hmm.
Et oui, j'y vais parce que je faisais une révision de ce que j'étais dans ma vie. Et comme j'étais quelqu'un qui était dans l'enseignement, quelqu'un qui était dans le domaine infirmier, quelqu'un qui était... Moi, je suis une francophone.
Mm-hmm.
Je dis toujours, ma définition, c'est... Bon, je suis en visite en Colombie-Britannique et ça va faire 24 ans que je suis en visite.
En visite? Ça n'a jamais été votre maison?
J'aimais ça à l'aise. Je l'ai bâti, ma façon d'être à l'aise au fur et à mesure de mes implications ici.
Mm-hmm.
Parce que je suis une francophone et j'y tiens.
Mm-hmm.
Et j'étais une francophone politisée aussi. Alors
oui.
Moi, j'ai appris dans ma famille qu'il n'y avait pas juste un domaine politique, qu'il y en avait plusieurs. Il fallait le choisir, puis il fallait que ça corresponde à qui on voulait devenir et qui on était dans le fond de nous.
Okay.
Alors, quand j'arrive ici, je suis une visiteuse. Je suis une Québécoise qui a le drapeau québécois au cœur, mais qui est tellement francophone aussi, hein, pleine francophonie, que c'est ça que je vais faire relever ici, la francophonie. Je vais participer avec les gens qui sont, tu sais, à ce moment-là, qui étaient en train de dire, ben, on va se retirer. Et j'ai accepté d'être bénévole.
Ouais.
Alors, la francophonie est devenue le point central à m'accrocher.
Oui, à vous accrocher.
Ouais.
Et ça, vous parliez de ce choix-là que vous avez fait de venir vous établir. J'ai fait un choix similaire aussi dans ma vie. Et je ne sais pas pour vous, mais on découvre... j'ai toujours su que j'avais une fierté d'être québécoise, d'être francophone, mais elle devient encore plus importante en milieu minoritaire. Je ne pensais jamais que ça allait prendre cette importance-là dans ma vie.
Ah, t'es surprise, hein?
Oui. Je ne sais pas si vous avez eu ce genre de réflexion-là ou si c'est quelque chose que vous entendez ou au contraire, vous avez toujours su que ça allait être important pour vous.
Ah ben moi, j'ai toujours su que ça allait être important pour moi.
Oui. Vous n'avez pas été surprise en arrivant?
Non, parce que avant de m'en venir ici, pour être sûre que je voulais venir, j'ai su qu'il y avait l'école en français, j'ai su qu'il y avait une société francophone. J'ai regardé le milieu francophone avant de venir.
Avant de venir. Et ça vous vient d'où, cet amour-là de la francophonie? Donc, c'était avant même de déménager à Victoria, ça fait longtemps que vous avez ça dans votre vie?
Ah oui. Moi, je sais ce que c'est qu'une franco-ontarienne, parce que j'ai fait mon cours d'infirmière avec des filles et il y avait pas de garçons dans mon cours à ce moment-là, qui étaient de l'Ontario et moi j'étais du Québec et j'étais dans l'Outaouais, alors tu sais, d'un bord de la rivière et de l'autre bord de la rivière, c'était facile de voir comment c'était. Et quand j'ai choisi d'aller faire le cours d'infirmière, c'est que j'avais pas de temps à perdre parce que je l'ai fait quand j'avais 30 ans.
Okay.
Alors j'allais en intensif. Et quand l'Université du Québec s'est ouverte à Hull, Elle ouvrait des champs l'infirmière en milieu communautaire, donc les CLSC, en tant que projet pilote. Alors, je suis traversée en même temps que je finissais l'infirmière de l'autre côté et mes stages pour dire « je veux embarquer comme infirmière communautaire » parce qu'à 30 ans, c'est ça que je voulais être.
Mm-hmm.
Donc, c'était déjà en moi.
Oui.
Que de dire, je m'en vais en Ontario et j'étudie en français avec les filles qui veulent devenir infirmière. Ouais.
Oui, donc ça fait longtemps que c'est en vous et vous avez vécu donc plusieurs fois dans des milieux minoritaires,
à la fois
en Ontario et ici.
Ah oui, on a même fait partie, nous autres, d'une coopérative d'habitation. Parce que quand j'ai rencontré Jacques, j'ai dit, est-ce que tu connais ça, une coopérative? Il dit non. Bon, ben j'ai dit, il y a une réunion là de coopérative d'habitation. Si tu veux savoir ce que c'est, ça serait ma seule façon que je quitterais mon Québec pour aller en Ontario. Alors, il était à la réunion de ce que c'était qu'une coopérative d'habitation. Qui se voulait française.
Okay.
Et puis, quand il est revenu, il a trouvé ça très intéressant, ce mode de vie-là. C'était 70 maisons qui étaient en train de se bâtir.
Okay.
Et la francophonie était pour être au cœur de ça.
Oh, wow.
Alors, on est embarqués, Jacques et moi. C'était la première fois qu'on se présentait comme couple pour avoir une maison dans ce projet
de coopérative. Et ça, dans le fond, vous étiez comme un quartier de 70 maisons.
Oui.
Tous francophones.
Absolument. Fait qu'évidemment, il y avait de toutes les sortes de personnes là-dedans. Mm-hmm. C'était merveilleux. Là, tu trouves la société dans ces gens articulés, dans ces gens moins articulés, dans ces gens en santé, dans ces gens moins en santé, dans ces gens qui ont beaucoup étudié, dans ces gens qui n'ont pas eu la chance d'étudier. C'est un beau mélange, là. Tu rentres là-dedans puis tu dis, je vais apporter quelque chose.
Puis il y a un sentiment de communauté, j'imagine, vu que c'est une coopérative, on est tous ensemble avec le même but. Il y a vraiment une communauté tissée serrée qui s'installe.
Oui. Il faut se gérer, faut apprendre à laisser la place à l'autre, donner la parole. Mm-hmm. Alors, quand on arrive ici, c'est ça qu'on sent aussi ici.
Oui, c'est vrai.
On sent que l'aspect coopératif n'est pas tout à fait là et que quand on entrera dans nos associations, faut permettre aux gens de s'exprimer, faut mm-hmm. permettre aux gens d'être avec nous pour bâtir, faut faire ensemble, faut pas bosser, là, faut être ouvert.
Oui.
Je te fais rire, là. Hein?
Oui, faut pas bosser. Mais c'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Et c'est comme ça qu'on construit une communauté vibrante et unie qui arrive à faire des superbes projets. Gisèle, c'est super intéressant tout ce que vous nous dites en ce moment, puis j'ai envie qu'on continue la conversation ensemble après la pause musicale, mais on va faire une première petite pause avec la chanson « Tant de choses à vous dire » d'Anne Sylvestre. C'est votre choix, votre recommandation. Est-ce que vous aviez une petite raison pourquoi vous l'aimiez, cette chanson?
Elle est de France. Alors moi, j'ai passé une année de vie en France, parce que Jacques était envoyé en année sabbatique là, à mm-hmm. Grenoble. Et puis c'est là que j'ai entendu Anne Sylvestre chanter, mais elle est connue au Québec aussi, Anne Sylvestre. Alors donc, c'est une fille de l'environnement, en fait l'arrondissement qu'on dit en France, l'arrondissement de Lyon. Et c'est une autrice, compositrice, interprète qui me fait plaisir à entendre par ses mots. Alors voilà.
Voilà. Alors on écoute ça à l'instant et on revient après la pause.
D'accord.
Tant de choses à vous dire, tant de choses vraiment, et qu'il ne peut suffire de garder au-dedans. Tant de choses à comprendre, tant de choses à rêver, des envies d'être tendre et de vous bousculer. Tant de choses à sourire, tant de choses à pleurer, tant de choses à construire ou à laisser filer. Des envies de surprise et d'habitude aussi, et puis que l'on vous dise, êtes-vous bien assis? Tant et tant de colère de ne pouvoir casser ce mur qui nous enserre, nous fait nous ignorer, ce mur fait de bêtises et de tant de mépris qu'on ne peut à sa guise atteindre ses amis. Tant de choses qui changent et la vie qui va fort, la vie qui nous dérange et qui nous donne tort, qui nous oblige folle à brûler nos vaisseaux et puis qui nous console avec un chant d'oiseau. Qui manque à ce monde en folie, que même les saltimbanques à leur tour ont envie de montrer qu'ils y pensent et font plus qu'y penser. Pour porter l'espérance, il est bon de chanter. Tant de peur, tant de haine à nous brûler la peau, et ces gens qui deviennent des loups pour le troupeau. Tant de morts à la guerre et tant de morts pour rien, et puis tant qui espèrent à travers leurs gamins. À vous dire tant de choses, ma foi, que ça peut nous conduire encore loin cette fois. Vous dire la fêlure qui vient à pas léger, falsifier l'aventure et la désenchanter. Vous dire aussi l'attente de vous retrouver là, la tendresse effarante qui va de vous à moi. Vous dire quelle chance que vous soyez venu et que mon espérance ne soit jamais déçue.
On parlait un peu avant la pause de justement de votre parcours, mais aussi d'un projet que vous aviez avec votre famille, de ces photos que vous avez explorées, de votre filiation avec votre grand-mère. Et vous faites un travail assez extraordinaire à l'Association historique francophone de Victoria. Vous avez ça à cœur, préserver la mémoire.
Absolument. Et ça, on a eu la chance de jouer des mots hein, avec toi et moi, là.
Oui, dans nos échanges.
J'avais été frappée par le mot que tu disais, le désir de s'ancrer par la mémoire. Tu sais, c'est comme une encre.
Oui.
On s'attache, là, puis on dit, attends une minute, là, je vais m'ancrer, je vais penser avant de parler, et puis ça va être attaché.
Oui.
Et puis, il y a l'autre façon de produire en écrivant, en sortant de notre mémoire des formules, des phrases, tout ça, avec notre encre. Et moi, je suis de la génération qui est allée à l'école et j'ai appris à prendre une petite plume avec un encrier, puis saucer la plume et puis essayer d'écrire de mon mieux. Hein? Ben, c'est ça, encrer.
Donc, vous ancrez pour vrai, vous ancrez pas par l'ordinateur.
Oui. Non, ma plume est toujours importante. Là, maintenant, c'est les plumes modernes, ça va vite, j'écris très vite. Mais oui, c'est important ça, de s'ancrer avec les mots et tout ça. Là, c'est important.
Et si on oublie l'histoire, si on oublie les histoires de nos grands-mères, leur histoire à elles, à eux, à nos grands-pères aussi, à notre famille, j'ai peur qu'on... Je ne sais pas pour vous, mais il y a une peur de perdre quelque chose aussi dans notre évolution en tant que famille, dans notre vie.
Oui.
Il me semble qu'il y a toujours un danger d'oublier. Et c'est ce qui, j'imagine, presse ce qui nourrit votre bénévolat, votre projet aussi d'écriture.
Oui, puis je dois te dire aussi, Julie, que le fait que j'étais ici, sur l'île à Victoria, je peux te dire que ça a apporté quelque chose. C'est que dans l'histoire, j'ai découvert qu'il y avait un missionnaire qui était arrivé en 1858 avec les religieuses qui ont parti Sainte-Anne-Académie, là.
Oui.
Il s'appelait Rondeau.
Mm-hmm.
Son nom de famille. Pierre Rondeau. il est venu avec Monseigneur Donners et puis il a été, tu sais, un aumônier de sœurs, là, un aumônier des religieuses. Il a été un peu aumônier des religieuses qui étaient arrivées aussi avec lui. Et puis, à un moment donné, une année après, il a dit à Monseigneur Donners, « Moi, je suis venu ici pour vivre mon sacerdoce avec un projet missionnaire. »
Okay.
Puis, si vous m'envoyez pas, là, à Cowichan, je retourne au Québec. Ben, là, j'ai dit, il s'appelle Rondeau. Il a bien une tête forte. Qu'est-ce que je me suis dit? Rondeau, ça ressemble à quelqu'un qui m'avait envoyé une lettre ici à l'Association historique, un sulpicien de Montréal, mais en fait de Joliette, qui m'envoie des questions sur le missionnaire Rondeau.
Oui.
En même temps, là, moi, j'ai pas fait coïncider ça.
Donc, c'est vraiment un add-on. Oui, vous avez découvert en ça plus, en même temps, oui.
Puis là, je découvre ce missionnaire-là qui a passé 41 ans à Cowichan avec la communauté autochtone. Ah, ben, mon Dieu, là, je dis, faut que je vois où ce qu'il est rendu dans ma filiation, que je te le dis.
Oui, oui.
Je suis tournée dans la généalogie. Et ce prêtre de Montréal, sulpicien, Clément Rondeau, qui s'appelle.
Mm-hmm.
Alors, il m'envoie, il dit, je vais regarder, là, Gisèle, d'où tu viens, toi, dans l'air des Rondeaux. Il m'a envoyé ça. Et puis là, je dis, oui, oui, c'est en plein ça. Je retrouvais les grandes tantes de maman, puis tout ça. Et là, j'ai dit, waouh, il y a quelque chose qui me parle par ça, tu sais, la généalogie.
Mm-hmm.
Fait que ça a resté de côté, mais je l'ai toujours célébré et rendu hommage à ce personnage-là, parce qu'à un moment donné, l'association historique avait déjà placé une plaque sous la petite église de Cowichan en mémoire de Pierre Rondeau. Mais ça me permettait, moi, en continuant, de découvrir ce personnage-là qui venait d'à peu près Joliette Berthier, de ce coin-là.
Okay.
Alors, c'est là que je dis, au bout de toutes ces années-là, ça fait longtemps que je pense à ça, puis je me dis, oui, il faut que j'écrive sur ma grand-mère Rondeau.
Parce que c'est ça, votre grand-mère, son nom de famille, c'est Rondeau, donc il y aurait un lien de famille, là, de parenté
oui.
avec...
Lui me fait remonter là, dans l'arbre jusqu'à temps qu'il y ait un couple. Et lui, il venait, Clément Rondeau, du Sulpicien de Montréal, il venait d'une branche de ce couple-là qui okay. avait marié trois femmes, je pense, là. Mais il avait marié la première qui était décédée. Alors, je pense qu'elle... La première, c'était la grand ou l'arrière-grand-mère de Clément Rondeau. Mm-hmm. Alors que lui, il disait, garde, c'est son troisième mariage que tu peux référer à ton arrière-grand-père.
Okay.
Fait que là, j'ai compris ça, puis on avait chacun notre bord à prendre parce qu'on n'était pas de la même mère.
Ouais.
Mais c'est ça que j'ai compris.
Ah.
Parce que je m'étais jamais donné ben je savais que j'avais des amis qui travaillaient dans les généalogies. Mm-hmm. Il y en a qui sont mordus de ça. Mais moi, j'étais
Absolument.
Pas mordue de ça. Et puis, je suis pas non plus perfectionniste pour ça. Je pense que tu sois pas mal perfectionniste.
Oui.
Mais ça m'intéresse de raconter quand même d'où ça vient un peu, cette affaire-là.
Oui. Donc, vous avez retrouvé un lien de famille ici,
oui,
sur l'île
de
Vancouver.
Qui m'a inspiré.
Mm-hmm. Mm-hmm. Et là, et cette grand-mère-là revient encore une fois. C'était qui cette grand-mère-là, finalement?
Est-ce que vous avez...
Oui.
C'était la maman de ma maman.
Mm-hmm.
Et comme j'ai perdu ma maman à 12 ans, et après ça, papa, un peu plus tard, il s'est remarié, donc j'ai eu une belle-mère.
Mm-hmm.
Ben, ma mère, j'avais quand même 12 ans, elle était très importante pour moi.
Mm-hmm.
Et elle, c'était une Rondeau Goyer, parce que ma grand-mère Rondeau, elle s'est mariée avec un monsieur Goyer.
Mm-hmm.
Alors, elle s'appelait Jeanne d'Arc Goyer, vois-tu. Mais, à cause de ça, j'ai jamais oublié ma mère et je dis, bon, ben, les cousins que j'ai par ma mère, ben oui, je vais leur demander de fouiller dans leurs affaires, de sortir les choses de leur mémoire, puis de m'envoyer ça, puis on va parler de ça, puis on va finir par sortir quelque chose de ça.
Et vous, est-ce que vous avez un souvenir de cette grand-mère-là?
Oh oui, oh oui, parce que j'étais la première, moi, la première fille qui arrivait dans le temps de la guerre. Moi, je suis née en 1942, tu vois. Mm-hmm. Et puis, maman, elle avait juste des frères. Elle avait 5 frères. Fait que la petite fille qui arrive dans la famille, elle était la nièce de tous ces hommes-là, là.
Mais elle était aussi la seule petite fille, donc j'imagine la grand-mère très contente d'avoir une... Oui.
Ben oui, ça a été ma marraine, tu vois.
Ah oui, OK.
Ben oui.
Donc vous avez des très beaux souvenirs de cette grand-mère-là.
Absolument. Alors c'est pour ça que tu me prends là en 2020 en train de penser à faire quelque chose là-dessus. Mm-hmm. Et j'ai une cousine là, de la même ligne là, qui est Ananaïmo, là, Francine Goyer, là. Oui, oui. Et puis j'y disais ça même cette semaine, elle m'a appelé. Puis ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé. Puis j'ai dit que j'avais le goût de faire un livre là, sur grand-maman. Wow! Puis là, elle dit justement, puis elle était d'accord. Puis il y a un de mes cousins aussi qui m'a écrit, puis il a dit, ah oui, c'est bon. Fait que je sais que j'ai deux alliés, là.
Absolument, absolument. Puis j'imagine qu'il y a comme un devoir de mémoire qui est lié à ça.
Oui.
Parce que si nous, on ne répète pas les histoires de ces grands-mères-là, si on ne fait pas vivre leur histoire, il y a comme quelque chose qui se perd. Il y a une peur de perdre cette mémoire-là.
C'est ça, Et puis là, c'est pour ça que je t'ai envoyé un beau disque de Claude Gauthier. Puis ça, c'est mon chanteur préféré, Julie, parce que il pense beaucoup, puis il a les mots pour dire les choses.
Mm-hmm.
Je trouve ça tellement beau quand il s'exprime, ça me rejoint.
Ben, on va aller l'écouter à l'instant dans ce cas-ci. On va aller écouter Le beau voyage de Claude Gauthier, encore une fois, un autre de vos choix. Et on va se laisser porter par sa poésie.
Oh oui, merci.
J'ai refait le plus beau voyage de mon enfance à aujourd'hui. Sans un adieu, sans un bagage, sans un regret ou nostalgie, j'ai revu mes appartenances, mes 33 ans et la vie, et c'est de toutes mes partances le plus heureux flash de ma vie. Je suis de lacs et de rivières, je suis de gibier, de poissons, je suis de roches et de poussière, je ne suis pas des grandes moissons. Je suis de sucre et d'eau d'érable, de paternoster, de credo. Je suis de 10 enfants à table, je suis de janvier sous zéro. Je suis d'Amérique et de France, de chômage et d'exil. Je suis d'octobre et d'espérance, je suis une race en péril. Je suis prévu pour l'an 2000, je suis notre libération. Comme des millions de gens fragiles à des promesses d'élection, je suis l'énergie qui s'empile comme GAFA à Manicouagan.
Alors, Gisèle, on est de retour de la pause avec Claude Gauthier, Le plus beau voyage. Encore une fois,
Oui.
un excellent titre, une très belle chanson que vous avez choisie.
Ben, c'est un chansonnier qui a 81 ans maintenant.
Ah oui, donc.
Oui. Un musicien troubadour de son époque. On n'utilise plus ça, chansonnier troubadour, mais il est chansonnier troubadour.
Oui.
Ouais.
Toujours. Il sera toujours pour vous. Et on parlait justement un peu avant la pause de ce projet que vous aviez d'écrire. Et là, je me demandais justement, qu'est-ce qui motive quand vous faites des projets comme ça? Je sais que vous avez travaillé longtemps avec l'Association historique francophone de Victoria, vous le faites encore, et vous avez mené des projets à terme de livres. Qu'est-ce qui guide vos choix dans ces projets-là?
Ben, c'est l'importance et la richesse des personnes qui passent sur Terre.
Mm-hmm.
C'est bizarre, mais c'est drôle, c'est Jacques Languirand. Tu connais Jacques Languirand qui est décédé quand même là, au Québec?
De nom.
Oui. Alors lui, là, il y avait une phrase qui aimait ça répondre. Il s'amusait beaucoup là quand il faisait ses grandes émissions à la radio qui duraient longtemps, là, puis il y avait toujours des idées spéciales. Lui disait, je n'ai pas peur de la mort, mais j'aimerais mieux ne pas être là quand elle va passer. Puis ça, il disait toujours, ça venait de Woody Allen.
OK.
Fait que ça, c'est des petites phrases qui arrêtent, tu sais, puis qui me disent, faut pas voir trop ce qui brille en avant qui s'appelle la mort, là.
Mm-hmm.
Mais pendant que je suis là, je suis obligée de faire quelque chose de fantastique. Et je reliais ça, moi, avec un incident que j'avais eu avant de m'en venir en Colombie-Britannique.
Mm-hmm.
Puis je me disais, j'ai une autre mission à faire, sinon je serais morte. Je conduisais, je donnais des massages aux personnes en tant qu'infirmière communautaire.
Mm-hmm.
Et puis, une journée qui était sur mon calendrier, un matin d'hiver, je me disais, j'espère qu'il n'y a pas une petite neige parce qu'il faut que je me déplace assez loin dans l'Outaouais,
mm-hmm,
pour aller donner un massage à une maman qui attendait des jumeaux ou des jumelles, là, je sais pas.
Mm-hmm.
Et puis ce matin-là, je suis partie, puis je voulais pas de petite couche de neige, puis il y en a eu une. Puis il y a un chemin très dangereux quand on s'en va vers Fort Coulonge, dans l'ouest. Et puis ce matin-là, je faisais bien attention à tout ça, puis là, tout à coup, il y a un élargissement que la ville a fait. Elle a donné une route plus large pour un certain long trajet.
Okay.
Mais avant qu'on la prenne, cette largeur-là, il y a toujours des conducteurs qui sont ils veulent te dépenser pareil.
Mm-hmm.
Puis là, je m'en viens tranquillement, puis il y a trois autos qui à ma gauche, puis tout ça. Puis tout à coup, je vois apparaître devant moi une auto qui décide de les dépenser. Et là, je me dis, ça y est, je meurs.
Mm-hmm.
Et lui ou elle, j'ai jamais su si c'était un homme ou une femme qui était au volant. Il s'est tiré à sa gauche, puis il est rentré dans un banc de neige.
Mm-hmm.
Et puis tant mieux, probablement qu'il y a juste eu une poque ou deux, là. Mais moi, j'étais sûre que j'étais pour mourir, là. Ah, parce que le face-à-face était là. Et non. Et j'ai continué, puis là, je te dis, j'ai dû être pâle épouvantablement. Et puis dans mon rétroviseur, j'ai vu comment il est rentré dans le banc de neige, parce que ça descendait un peu, puis il est rentré dans le banc de neige. Là, j'ai continué, j'étais arrivée chez la femme. Et puis j'ai dit, j'ai failli avoir un gros accident. Est-ce que vous avez un bon verre d'eau, là, que je reprenne mes sens? Et là, je me suis dit, si c'est arrivé, là, je serais finie.
Mm-hmm.
Mais non, j'ai une autre mission à faire. Puis c'est quand je suis arrivée ici, j'ai dit, mon Dieu, c'est ça la mission que j'avais à faire, c'est de la francophonie en Colombie-Britannique.
Oui, OK. C'est aussi important que ça, là. C'est vraiment vraiment une mission pour vous.
Absolument.
Oui.
Alors, quand je suis arrivée ici, ben là, tu vas me demander, mais c'est quoi qui m'a attiré? Ben, premièrement, aller déposer mes papiers à la commission scolaire pour être une éducatrice spécialisée avec les enfants, puisque j'avais été dans le domaine de l'enseignement pendant 7 ans. Ensuite, y a-t-il une organisation de femmes? Ah oui, il y en avait une, elle était en problème, mais là, commençait du bon pied, il réunissait le plus de femmes possible pour la repartir. Eh bien, j'étais là. Mm-hmm. Alors, tu vois, Réseau Femmes, oui. L'école Victor Brodeur, la base avait entendu parler de Gisèle Sanson qui était arrivée ici. Alors, le responsable m'a appelé pour dire on a besoin de quelqu'un qui enseignerait le français à la base.
Ah oui.
Ah, mais j'étais pas là, j'étais déjà au Québec, j'étais partie faire un voyage au Québec. Et puis quand je suis revenue, oui, j'y vais, pas de problème. Donc, ça se préparait tous pour que je sois très active ici.
Oui, les astres se sont alignés. Vous y avez trouvé votre mission.
C'était ma mission.
Oui.
Il fallait que je sois vivante pour m'en venir en Colombie-Britannique.
Oui, oui. Et comme...
Alors, c'est pour ça que je visite.
Oui.
Je visite longtemps.
Longtemps, cette longue visite. Et comme vous l'avez dit, vous parliez de la mort un peu auparavant. Vous avez fait un face-à-face. Vous avez manqué faire un face-à-face et donc vous avez comme vu un peu votre mort venir. Puis j'ai l'impression que quand on s'attarde à l'histoire, quand on veut faire vivre l'histoire, c'est aussi une peur de tomber dans l'oubli.
Ouais.
Après la mort, il y a comme cette peur-là de que l'histoire ne reste pas. Et là, vous êtes acharné à vraiment faire vivre l'histoire francophone en Colombie-Britannique pour que cette histoire-là ne meure pas.
Oui, parce que j'ai trouvé que les personnes qui étaient impliquées, dont Laurette Laplante Agnew, qui était dans les archives, elle avait besoin, elle, d'aller vers son mari qui était malade. Elle était dans les 80, là, 80 ans. Et puis, elle cherchait quelqu'un, puis elle... dans la pièce historique qu'il avait faite, il avait fait une belle pièce historique, là, les aînés. Et puis, je suis embarquée dedans, puis là, elle a dit, je vois que vous aimez l'histoire, puis elle m'a transmis les choses. Et je suis devenue celle qui a continué Laurette Laplante Agnew.
Oui, elle vous a passé tous les documents, l'archive, les responsabilités.
Oui, puis là, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Avec les ressources qu'il y avait, puis avec le manque de bénévoles qu'il y avait.
Oui, mais ouais, vous avez fait un travail extraordinaire depuis ce temps-là. Quel est le projet là, qui vous a rendu le plus fier?
Ben, c'est de sortir des personnages et de les mettre sur un rouleau là, tu sais, qui se déroule, que tu peux afficher à différentes places. T'sais, une espèce de bannière là, tu sais, qui reste là. Parce que même si tu écris puis tu mets ça dans une filière ou que tu transfères ça sur le virtuel, où c'est que ça s'en va? Puis qui ça reste pas, ça, là. Mais ton rouleau, là, on en a 6, là.
OK.
Sophie Olivaumort avec moi, qui elle est graphiste, puis tout ça, là, puis elle a toute la conception, la tête qu'il faut pour organiser ça. Mm-hmm. On a monté 6 beaux rouleaux comme ça. Mm-hmm. Alors, ce qui m'intéressait, c'était premièrement les bâtisseurs du Fort Victoria, c'était des Canadiens français, il y en avait plusieurs. Mm-hmm. C'était de sortir la liste. Deuxièmement, il y avait une missionnaire qui s'était emmenée, les 4 religieuses, puis les 4 religieuses qui ont parti Saint-Anne Académie parlaient juste des 4 sœurs. Fait que moi, je dis une minute, on va parler de la missionnaire laïque qui était venue avec eux autres. Là. Mm-hmm. Puis on a fait une reconnaissance à Marie Mainville, hein, c'est un beau nom.
Oui.
On a fait une reconnaissance à elle. Après ça, ça s'est enchaîné comme ça. Et Sir Henri Gustave Joly de Lotbinière, tu vois dans le réverbère qu'on dit qu'il est arrivé en 1900. Mm-hmm. Ça fait 120 ans. Et le 29 juin, on se préparait à faire une célébration, mais le virus nous a un peu modérés, là.
Oui, hein? Malheureusement.
On répète ça, que oui, Sir Henri Gustave Joly de Lotbinière est venu comme lieutenant-gouverneur pendant 6 ans ici pour aider à la politique à se stabiliser.
Mm-hmm.
Et puis après ça, il est reparti. Il a fait un excellent job. Les gens l'ont aimé. Mm-hmm. Et puis là, bien évidemment, il y a Rondeau, mon missionnaire de mon arbre. Hein?
Mm-hmm.
Lui aussi, il est mort en 1900. Et il est mort à l'hôpital Saint-Joseph des Sœurs de Saint-Anne. Et puis cette année, ben j'aurais voulu faire quelque chose, mais je suis un peu arrêtée.
Ouais.
Et puis, je suis venue à bout d'obtenir un permis de la ville de Victoria pour enfin, depuis des années qu'on veut mettre un monument en honneur de Léon Morel, qui était un voyageur du Québec et qui a vécu ici et qui a pris plusieurs jobs ici avec Douglas, qui était le meneur. Et puis, lui, il représente tous ces Canadiens français qui se sont promener là, de l'Oregon à Washington au nord de la Colombie-Britannique parce que la frontière était lousse, là. C'est la slack, ça, cette frontière-là. Fait que la compagnie d'Albu Dutson, elle envoyait ses gens un peu partout pour les fourrures et tout ça.
OK.
Alors, donc, lui est important parce qu'il est représentatif de tous ces Canadiens français qui sont venus ici.
Oui.
Et ça parlait français à cette époque-là.
Wow! Et ce monument-là, on peut s'attendre à le voir dans les prochaines années?
Oui, ben j'ai eu le permis, ça a pris du temps!
Oui.
J'ai eu le permis en février, imagine-toi!
Oh, wow! OK, donc
et là,
là...
Ben, avec un groupe, j'ai repris ce qu'on allait marquer sur le monument.
Mm-hmm.
Et ça sera un monument fait en style ancien. Il y en a juste deux ou trois comme ça dans le cimetière Rose Bay.
Okay.
Alors donc, on s'est mis d'accord. Là, j'ai consulté tout le monde pendant justement notre période de confinement. Mm-hmm. Là. Je les ai consultés. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous voyez? Écrivez-moi pour me dire où sont les erreurs orthographiques. Qu'est-ce qu'on doit mettre? Qu'est-ce qu'on doit enlever? Qu'est-ce qu'on doit changer?
Mm-hmm.
Pour mettre sur sa plaque. Et on s'est entendu là-dessus, puis là, elle est en train d'être préparée, et je ne sais pas quand, mais on aura une date.
On aura une
où
date.
Le monument va s'installer dans le vieux cimetière.
Le cimetière de Rose Bay, c'est bien ça?
Rose Bay. Ross, c'est le nom de famille d'une famille du début, là, lors du temps qui ont bâti le Fort Victoria.
OK.
Ross.
OK.
Et puis, alors donc... Et puis on a métissé l'endroit ici, hein, avec mm-hmm. nos Canadiens français. Mais on les appelait pas métis, là, on les appelait les sans-mêlés ou les breed, mais c'était comme la moitié, là, tu sais.
OK, oui.
C'était métis finalement. Mais oui, on va travailler un peu avec les métis aussi avant de mettre la célébration en main.
Oui, oui.
Alors, découvrir tout ça, c'est extraordinaire.
Oui, j'imagine. Il y a comme toujours des petites perles qui se cachent dans notre histoire. Vous avez découvert aussi un lien de filiation avec ce monsieur Rondeau. Et j'ai cru noter qu'il y avait quand même une parité dans les personnages que vous m'avez parlé. Il y a comme est-ce que vous avez un souci de quand même mettre sous la lumière les histoires de femmes? Parce que c'est
oui.
souvent un peu oublié dans l'histoire. Ben, pas un peu, c'est souvent oublié. Et là, je note que vous avez fait un effort de mettre en avant ces histoires-là de femmes, de sœurs, de missionnaires. Est-ce
oui.
que vous avez quand même toujours un souci d'aller chercher les femmes dans l'histoire que vous...
Bien, c'est que avec le temps qu'on a... Hein, la dernière qu'on avait sortie, c'était Mme Fortin-Terrien, qui
oui.
a été une très grande leader.
Mm-hmm.
Et comme on vient de fêter le 75e anniversaire de la Fédération des francophones de Victoria...
Oui.
Je l'ai mis de l'avant, là.
Oui.
Et puis, on a fait aussi. Il y a une deuxième école francophone ici à Victoria. Et puis, ils cherchaient un nom.
Mm.
Puis, dans la liste des noms, il y avait le nom de Fortin-Terrien, hein, madame.
Oui.
Oh, ben là, nous, à ce moment-là, j'ai dit à une amie qui aime bien et qui était héritière finalement de la pensée de cette femme-là, c'est Régine Bérubé.
Mm-hmm.
Alors Régine Bérubé, j'ai dit, oh, on va faire un tableau pour montrer qui est cette femme.
Oui.
Et on l'a fait. Elle est dans les six rouleaux bannières.
Oui. Ouais. Ouais, donc on peut ces rouleaux-là, ces bannières-là, vous les sortez lors du festival Rendez-vous Victoria, puis dans les
à chaque fois qu'il y a un événement.
À chaque fois
oui,
qu'il y a un événement.
Ils sont à la Société francophone, donc souvent
oui.
la directrice Pauline Gobeil demande d'en sortir mm-hmm. et puis ils les sortent. Là. Moi, je les mets disponibles. Ça m'appartient pas. C'est fait, c'est pour notre communauté.
Oui.
Et n'importe quelle association qui voudrait avoir un des personnages historiques, il y a juste à demander à Pauline Gobeil, la directrice générale.
Oui, oui. On invite les gens, s'ils sont curieux, de les demander, de les voir. Et
oui.
Vous avez un tout nouveau site web aussi à l'Association historique francophone de Victoria qui vient de sortir. Vous avez une page Facebook aussi qui est très active. Donc, on invite les gens à aller consulter ces pages-là si jamais elles sont
curieuses.
Oui, sont
et comme curieux. Moi... Et comme moi, j'ai donné et que je m'en vais vers une autre étape, comme je disais, de octogénaire un jour, ben, c'est Marie-Hélène Bourret qui était en charge actuellement.
Oui.
Alors, elle a pu aider beaucoup de monde au niveau histoire, absolument. Là.
Absolument.
Elle a pris ça, puis elle travaille avec ça, puis c'est elle qui fait les pages historiques, puis les messages, puis tout ça. Là.
Donc, on invite
parce
les
que
gens,
moi, ouais. je vais me retirer, là, 2021, je vais devenir tout simplement une bénévole qui participe aux choses, là. Je ne serai pas en avant, non.
C'est pas vous qui allez mener les projets après ça. Mais vous allez, on va quand même vous voir dans les événements. On va vous retrouver comme bénévole à l'association.
Oui.
Et ce fut un très, très grand plaisir de jaser avec vous, Gisèle, ce soir. C'est un honneur vraiment de vous avoir à l'émission.
Et, tu m'as donné une belle petite place. Là, je suis contente. Tu me fais rentrer sur la radio où j'ai été la première animatrice féminine.
Ah, c'est vrai? Donc,
c'est LSFM.
Oh, wow! Oui. En quelle année, ça?
Oh, ça, c'était en 2007.
Oh, wow! Donc, vraiment, une belle boucle là, qui vient de se faire.
Oui,
là.
Oui, ça me permet là, de fermer la boucle.
Oui,
dire,
ben, on invite. Oui. Ben, on espère que vous rentendez encore une fois à la radio. Parce que c'est un plaisir de vous jaser, puis vous avez tellement de choses à nous raconter. Alors, j'espère qu'on aura la chance encore une fois de jaser à la radio. J'espère que ce n'est pas la dernière
bonne
fois.
Bonne chance à toi, Julie. Là, continue dans le domaine. Tu es excellente aussi. Là. J'ai écouté là, les entrevues que tu fais. Là, j'aime ça.
Merci. C'est très gentil.
Okay. Au revoir.
On se laisse sur « Commencer à vivre autrement » de Sylvain Lelièvre.
Oui, ça, c'est un impératif.
Alors,
okay,
on lance
bye
ça.
Bye
bye. Bye.
Commencez à vivre autrement, car le temps. Commencez à vivre autrement, car le temps de l'amour est proche. Ce monde craque de toutes parts, c'est lui-même qu'il traque de ses dollars. C'est sur lui-même qu'il braque dans son miroir ses propres matraques, il ne peut plus se voir. Commencez à vivre autrement, car le temps. Commencez à vivre autrement, car le temps de l'amour est proche. Ces fausses fêtes, ces fausses fleurs, ces faux prophètes, ces faux docteurs, ces fausses manchettes et ces fausses peurs, ça fait la recette de ces faux monnayeurs. Commencez à vivre autrement, car le temps. Commencez à vivre autrement, car le temps de l'amour est proche. Tant de fissures dans le décor, tant de blessures et tant de morts, tant de tortures, de ratures sans remords, ça se censure jusqu'au jour où ça mord. Commencez à vivre autrement, car le temps. Commencez à vivre autrement, car le temps de l'amour est proche. J'ai vu la horde des cerfs-volants, quand ils s'accordent, m'a dit le vent, que dans leurs cordes, printemps venant, miséricorde, se pendra le vieux temps. Vivre autrement, car le temps, commencez à vivre autrement. car le temps de l'amour est proche. Commencez à vivre autrement, car le temps, commencez à vivre autrement, car le temps de l'amour est proche.
Alors, j'espère que vous avez aimé l'émission avec Mme Gisèle Sanson. Si vous avez envie d'y participer, que vous avez une passion à nous partager, n'hésitez pas à m'écrire à julie@commercialradiovictoria.ca. Je vous rappelle que l'épisode de ce soir sera disponible en balado-diffusion sur notre site web radiovictoria.ca. On se retrouve tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi, dès 20h sur les ondes de Radio Victoria ou 107.9 FM pour un tout nouvel épisode de 40 jours et 40 nuits. À bientôt!